René Mézeroy, La main chaude. L'histoire morale que nous allons avoir l'honneur de vous raconter, d'après des documents diplomatiques retrouvés, on ne sait par quelle cause, au fond de la fameuse armoire du Val d'Or, s'est passée dans la principauté de San Moccoli, une principauté d'opérette que les géographes, des gens consciencieux pour cependant, ont malencontreusement oublié dans leurs atlas. Imaginez-vous, trempant leur blancheur dans la nappe paresseuse d'un golfe bleu, des maisons italiennes à terrasses fleuries, de vieux clochetons d'église qui se chauffent au soleil, des rues étroites où le soleil apparaît entre les murs comme une bande flottante de soie tendre, des enclos où les pampres luisent sur les feuilles argentées des oliviers, et à l'horizon, moiré de lumière, la mer que les voiles latines parsèment de taches claires. Cette aquarelle représente la capitale de la principauté. Ajoutons, pour ne négliger aucun détail, qu'il serait impossible de tirer un coup de canon sans occasionner un casus belli, que l'armée permanente est composée de 5 carabiniers, dont un van invalide, de colonels et un général, que le suffrage universel n'existe pas et que les impôts ont été abolis au XVe siècle. Donc, en l'an de grâce qu'il vous plaira, le prince Ascanio XXII, ayant fait royalement la fête aux quatre coins du demi-monde, s'aperçut un beau soir que sa cassette sonnait le creux, que son dernier héritage était croqué jusqu'au plus petit écu, et que les usuriers les moins avares ne lui prêteraient pas un sou sur sa couronne fermée. Il ne pouvait songer à rétablir les impôts. Ses sujets n'étant pas toujours d'humeur facile, l'aurait reconduit à la frontière sans les moindres égards. Il pensa à licencier son armée permanente, une économie de bout de chandelle, et ne sachant plus enfin à quel juif se vouer, le prince décida de faire une fin et à chercher une héritière. Oh, il n'eut pas à chercher longtemps. Son voisin, le vieux duc de Lacrima Christi, avait une fille un peu fanée, ni spirituelle ni jolie, mais millionnaire à souhait. Ascanio XXII n'hésita pas. Il envoya son chambellan au duc. On discuta, le chambellan fut très éloquent et enleva le consentement après un discours tellement long que le vieux s'était endormi dans son fauteuil armorié. Les fiançailles furent célébrées dans les deux États avec une imposante solennité, et l'on fixa le mariage à la Notre-Dame d'août. Cependant, Ascanio XXII enterrait joyeusement sa vie de garçon. Il dépensait déjà la dot de l'héritière. Les doublons sautaient à pleine poignée par les fenêtres ouvertes du palais. Les bouchons de champagne n'interrompaient pas leur bruyante musique. Dans toutes les chambres traînaient les robes de belles amies revenues pour consoler le prince. On soupait, on dansait. Toutes les folies, tous les caprices étaient exaucés. Le prince se grisait de fausses tendresses et d'amours artificiels. Les lèvres qui s'offraient, les yeux qui étincelaient, les corsets roses qui craquaient, chassaient loin de lui l'amère vision du supplice prochain. Et le carnaval du palais détraquait toute la ville, comme ces farandoles qui passent de maison en maison, entraînant tout le monde dans leurs chaînes enlaçantes, et renversant tout devant elle. Les sérénades empêchaient les maris de dormir. L'armée permanente oubliait ses consignes. On ne rencontrait que des couples aux joues enluminées, aux regards languides, qui processionnaient deux à deux, suivant la guise amoureuse. On en rencontrait à chaque pas, dans les bosquets obscurs des jardins, au détour des rues désertes, sur les sables d'or de la grève et jusque dans les antichambres du palais. Et parfois, sur le golfe aux eaux transparentes où la lune milait son pâle sourire, passait, conduite par des rameurs paresseux, la barque remplie de bouquets où Ascanio XXII écoutait tranquillement les bêtises des moussideras agenouillées autour de lui et la voix triste d'une diva parisienne qui chantait la mélancolique complainte du grand Théo. « Ma belle amie est morte, je pleurerai toujours. » Sous la tombe, elle emporte mon âme et mes amours. Que mon sort est amer, oh, sans amour, s'en aller sur la mer. Or, tandis qu'on chantait dans la principauté de San Moccoli, le vieux duc de Lacrima Christi, exaspéré par les lamentations de sa fille, qui demandait Ascanio sur tous les tons du clavier, monologuait d'inquiétantes réflexions sur l'indifférence de son gendre. Pas de bouquet, pas de cadeau, pas de visite, pas de poulet. Mais que devait-il penser d'une telle conduite? Et un jour, curieux de connaître le dessous des cartes, il se grima de merveilleuse façon, prit les lunettes bleues de son conseiller intime, ayant fait atteler sa berline, partit pour la principauté. Il arriva au palais quelques heures après. La chaleur était accablante. Le Suisse ronflait sur une banquette. Il le réveilla sans pitié. « Le prince peut-il recevoir un ambassadeur de sa majesté le duc de Lacrima Christi ?» demanda-t-il aussitôt. Le Suisse sortit à langues enjambées, se frottant les yeux et fort peu satisfait de ce brusque réveil. Les fenêtres de l'antichambre étaient ouvertes et l'on apercevait les allées vertes et les massives en fleurs des jardins du palais. Le duc s'était assis et regardait distraitement voler les papillons. « Non, mais ce maroufle me permettrait-il de me faire attendre ? » murmura-t-il bientôt. Il répétait cette phrase pour la quatrième fois lorsqu'il entendit très loin dans un bosquet des paroles brèves qu'interrompait le tumulte querelleur de rires féminins. Il reconnut la voix du prince. « Un ambassadeur de mon père, mon beau-père, dit-il, oh, qu'on lui dise de revenir au 15 août. » Le duc sauta comme s'il eût reçu une décharge électrique dans les mollets, et furieux, marmottant entre ses dents des lambeaux de menaces, il courut de corridor en corridor, d'allée en allée, vers la charbie où les rires continuaient de plus belle. Dans l'ombre verdissante des feuilles pressées que le soleil lamait de plaques d'or, la diva parisienne, en un déshabillé provoquant, était assise sur un banc de pierre. Ascanio XXII, agenouillé, avait enfoncé son visage dans les jupes de la belle. Et groupé autour de lui, toute une bande de jolies filles jouait à la main chaude comme des échappées de couvent. C'était charmant. Le duc crut entrevoir un coin du paradis perdu. Sa colère agonisait. La gaieté des autres l'envahissait. Et sans prononcer une parole, le doigt posé sur ses lèvres, profitant de la stupéfaction générale, il gratta d'une chiquenaude légère la paume immobile du prince. « Cette fois, cria Ascanio, c'est Marietta. Ah, tu me dois 10 baisers, ma chère !» Ayant relevé la tête, il aperçut la face imperturbable du duc qui avait jeté ses lunettes bleues. « Vous ici ? » fit-il. « Moi-même, mon gendre. Exigez-vous les 10 baisers ?» Le mariage fut rompu. Le prince Ascanio ne le regrette plus. Il a installé maintenant dans ses états une maison de jeu qui enfoncera celle de Monaco. L'ordre du poisson d'or, qu'il vend très cher aux financiers véreux et aux marchands de cochons enrichis, lui rapporte au bon an mal an 100 000 francs de rente. Et la fête continue à San Moccoli.